Bien, bonjour à tous. Donc, Nicolas nous a brossé un tableau de tout ce qu'il faut examiner lorsqu'on envisage de s'abonner à une ressource numérique lorsqu'elle est proposée par un prestataire extérieur. Mais je dirais qu'en un sens, on peut aussi faire parfois nous-mêmes. C'est le sens en grande partie de cette table ronde. On va décrire un certain nombre d'expériences qui ont été réalisées, montées en place par les bibliothécaires eux-mêmes. Parce que il y a quand même une question qu'on se pose à propos des ressources numériques, musicales. C'est à un moment donné, on se dit pourquoi faire. Finalement, quel est l'intérêt, est-ce qu'il y a un intérêt à proposer quelque chose de cet ordre, hein? Et on va voir que dans les expériences qui vont vous être exposées tout de suite, là, il y a des dimensions supplémentaires par rapport au simple fait d'acheter une ressource. Je dirais que c'est un peu plus, ça va beaucoup plus loin que d'acheter une ressource comme si c'était un document de plus. Il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux qui permettent notamment de faire de la ressource numérique un outil de médiation, d'avoir une relation avec l'usager qui est différente, d'avoir éventuellement des relations avec de nouveaux usagers, un nouveau public que ça peut intéresser. Ça entraîne également des collaborations qui peuvent être inédites, hein, qui peuvent être soit à l'intérieur de l'établissement ou interbibliothécaire, ou de façon plus générale, de s'inscrire dans un écosystème culturel dans sa région, dans son environnement. Et puis, on va voir pendant cette heure et demie qu'il y a des enjeux, ou des objectifs qui sont d'un autre ordre. Bon, vous allez voir notamment un enjeu comme la mise en valeur de la scène locale, hein, ou avec un discours éventuellement peut-être un peu militant sur la mise en valeur de la musique libre, enfin de ce qu'on appelle le libre, on y reviendra. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de règles, hein. Chaque équipe, chaque projet invente de nouveau ses règles, essaie de passer outre les difficultés qui peuvent être nombreuses, qui sont des difficultés d'ordre technique, d'ordre juridique, d'ordre administratif, parce qu'évidemment, ces projets ne peuvent fonctionner que si on met les tutelles dans la boucle et si elles comprennent pourquoi on agit de la sorte. Voilà, donc nous avons quatre intervenants. Donc on va faire dans l'ordre qui est sur le papier. Donc, alors une petite précision sur cette table ronde. Bon, j'ai décidé un petit peu de frustrer mes intervenants en leur demandant de limiter dans un premier temps leur présentation pour qu'on n'ait pas simplement une suite de monographies, mais qu'on puisse revenir sur un certain nombre de points, interagir entre nous et puis interagir également avec la salle, ce que je vous invite très volontiers à faire. Voilà, donc nous avons alors à ma droite Vincent Bouteloup qui va nous présenter Zik Libre en Bib. Immédiatement à ma gauche, Sophie Cornière avec la Sonothèque Normandie. Un petit peu plus à gauche, Emeline Monres, donc avec la Numothèque, qui est la bibliothèque numérique de Grenoble. Et puis, tout à fait à gauche, Nicolas Clément, qui nous présentera la Gironde Music Box. Voilà, donc on va commencer par Zik Libre en Bibre. Vincent, c'est à toi.
Bonjour. Je vais revenir un petit peu juste sur l'origine du projet. Et puis après, on partira plus sur le sujet central de la table ronde. Donc, à l'origine de ce projet-là, il y a les licences libres. Hein. Donc, les licences libres, c'est la licence Art Libre qu'on voit là-haut. Et puis, essentiellement, les Creative Commons. Donc, ça s'inscrit dans le droit d'auteur classique. Et en fait, les artistes choisissent des options sur les licences, c'est-à-dire de partager de façon plus ou moins limitée leurs œuvres. Le principe, c'est en fait qu'il y a une libre diffusion et une copie libre sur ces œuvres-là. Alors en fait, ces œuvres, on les trouve sur des sites ressources. Donc, il y a tout d'abord les plateformes. Alors, la plateforme la plus connue peut-être, c'est Jamendo. Enfin, en France, en tout cas, c'est Jamendo, parce que c'est en français. Et donc, il y a Dogmazic aussi, qui est né de l'association Musique Libre de Bordeaux. Donc ce sont des sites où on trouve des artistes, enfin des créations musicales sous licence libre. Et donc j'en ai nommé deux autres. Donc il y a Free Music Archive, qui est une plateforme américaine qui a été créée par la radio WFMU. Et c'est une plateforme en fait qui regroupe en majeure partie des musiques sous licence libre. Il y a aussi Bandcamp. Alors par contre, Bandcamp, il y a des créations qui sont sous copyright, mais il y a aussi des créations qui sont sous licence libre. Alors à côté, j'ai précisé les netlabels aussi. Donc c'est des labels qui sont sur Internet et qui diffusent en fait des créations de musique libre en fait, avec un catalogue propre à chaque netlabel. Et en dessous, j'ai mis les sites prescripteurs parce que il y a très peu de sites prescripteurs. Donc il y en a un qui existe depuis longtemps, c'est Au bout du fil. D'ailleurs, qui a un peu inspiré Zeclib en Bim. Donc, c'est des chroniques, en fait, de musique libre. Et puis, il y avait Netlabel Revue, qui n'est plus actif depuis un certain nombre d'années, mais en fait, qui s'est intéressé à chroniquer pas mal d'œuvres libres sur les années 2000. Alors, faut savoir que il y a des artistes, des albums, c'est vraiment un pan de création musicale très important, mais qui est méconnu du public. Et donc, il y a tout un travail de médiation à faire autour de ces œuvres-là, qui sont internationales. C'est-à-dire qu'il y a des artistes aussi bien du Japon, du Brésil, que de l'Allemagne, ou etc. Quoi. Alors, en médiathèque, comment on retrouve ces œuvres ? Donc, en fait, à la médiathèque d'Argentan, on s'y est intéressé à partir de 2008. Et en fait, on a commencé par graver ces œuvres libres sur CDR, parce que ça se présente comme des albums. Et on a gravé ces œuvres-là sur CDR, qu'on a mis en prêt à disposition du public, avec un petit support explicatif par rapport aux licences utilisées. Et puis, la médiathèque de Passé a commencé ce travail-là en 2010. Et donc, en fait, j'ai listé un petit peu les objectifs qui figuraient pour animer ces fonds-là. Enfin, donc, il y avait sélectionner et mettre en valeur, comment la musique libre, faire de la médiation autour du droit d'auteur. Et puis, donc, on a ressenti un besoin aussi, il y a tellement d'œuvres, de mutualiser, en fait, pour en faire quelque chose de plus visible. Donc voilà, et ces missions-là, enfin ces objectifs-là, en fait, s'intègrent aux missions des bibliothèques comme plus générales. Donc en fait, la rencontre de la médiathèque de Passé et la médiathèque d'Argentan, en l'occurrence d'Antoine Viry, animateur multimédia à la médiathèque de Passé, a donné naissance à ce blog, Zeclib en Bim, en 2012, donc qui a pris pas mal d'ampleur depuis 5 ans en fait. Donc le principe, en fait, c'est des mini-chroniques, hein, il y en a plus de 900, avec un titre en écoute et un lien vers l'artiste. On a aussi développé en bas du site, tout en bas du site, un fonds d'articles sur la musique en libre diffusion et une boîte à outils pour proposer la musique libre en médiathèque. On met également à disposition des supports de communication, affiches et flyers pour les bibliothèques qui voudraient faire de la médiation autour de ces œuvres-là. Et donc ce blog est vraiment basé sur une participation collaborative et libre en fait. Donc on compte une quinzaine de chroniqueurs réguliers de structures différentes sur la France. Donc c'est un projet qui est sans structure hiérarchique. Hein. En fait, on est deux à piloter le blog, mais c'est vraiment un travail d'équipe et collectif en fait. Et donc ce blog est hébergé par la CIM. Et donc chacun contribue voilà, en fonction de ses possibilités, de ses envies. Et puis, il n'y a pas du tout de cahier des charges à remplir pour participer à Zeclib en Bib, sauf de s'intéresser à la musique libre, bien évidemment. Donc le blog compte plus de 2000 visites par mois, à peu près. Hein. Donc voilà.
Alors, je sais. On a commencé en avant, d'accord. Donc, t'as un petit peu plus de temps, okay. Que j'ai.
Donc en coulisses, comment ça marche ? Alors en fait, les collègues qui veulent participer nous contactent par mail et puis en fait on leur crée un code pour qu'ils se connectent en fait à l'interface collective du blog. Donc en gros c'est quoi ? C'est un forum interne et puis des newsletters en fait pour échanger et décider collectivement. Donc il y a une trentaine de membres actifs, c'est-à-dire dans les personnes qui participent à Zeclib en Bib, il y a des gens qui vont seulement faire des chroniques. Puis il y a d'autres personnes qui vont participer au forum pour donner leur avis sur telle ou telle question, pour prendre des décisions sur certaines choses qu'on a mis en place. Alors, donc là, j'aborde un autre point, c'est la rematérialisation. C'est-à-dire que En fait, ce qui est visible sur Internet, c'est les chroniques, c'est le blog. Donc il y a 3 ou 4 chroniques publiées par semaine. Sur l'ensemble de ces chroniques, en fait, on publie des compilations trimestrielles. Donc là, je reviens au forum interne, en fait, où, par exemple, les décisions collectives, tout simplement, eh ben, c'est la sélection des 16 morceaux qui vont figurer chaque trimestre dans la compilation. Pour donner une petite idée, en fait, de l'utilisation de ces ressources, donc, ces compilations se trouvent sur le site Bandcamp, sur la plateforme de musique Bandcamp. Et donc, sur l'ensemble des compilations qu'on a proposées, en fait, on compte plus de 49 000 écoutes et 2550 téléchargements. Également, donc, ces compilations, en fait, peuvent être téléchargées par les bibliothèques et rematérialisées, c'est-à-dire copiées sur CDR avec la jaquette imprimée et intégrées au fond mis à disposition du public, en fait, qui peuvent l'emprunter. C'est ce qu'on fait à Argentan, c'est ce que pas mal de bibliothèques font. Alors, sans forcément que les bibliothèques participent plus que ça à Zik Li Bambi, mais le simple fait d'aller chercher ces ressources-là, de les rematérialiser dans les bibliothèques et de les proposer aux usagers, voilà, c'est déjà une part de médiation et une part de mise en valeur de toutes ces ressources-là. Alors, l'autre matérialisation dont il est question là, c'est aussi les mini-fascicules, bimensuels, on ne dit pas bimensuels, on dit bimestriels a priori, des mini-chroniques. Tous les 2 mois, en fait, il y a un petit fascicule qui est édité en format PDF qu'on trouve sur le site et qu'on peut télécharger et imprimer et mettre à disposition de ses usagers dans la bibliothèque. Donc, n'importe quelle bibliothèque peut aller sur le site, télécharger ce mini-fascicule, l'imprimer et puis le mettre en plusieurs exemplaires disponibles au public. Donc, il y a des extensions sur Internet. Donc, évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux pour toujours dans ce travail de médiation et de mise en valeur. Donc, on a plus de 700 abonnés sur Twitter et plus de 900 sur Facebook. Donc, ça nous permet de relayer les chroniques avec des personnes qui vont seulement être sur Facebook, qui vont suivre les chroniques sur Facebook et non pas sur le site. Et puis, ça nous permet de communiquer aussi sur d'autres actions ponctuelles qui peuvent être menées via Zik Li Bambi. On est aussi présent sur des plateformes, donc sur SoundCloud, où on trouve les 26 derniers titres qui ont été chroniqués en écoute, en playlist, qu'on peut intégrer à son site internet, au site internet de la bibliothèque. On est présent sur Bandcamp, ce que je disais tout à l'heure avec les compilations trimestrielles. On est présent sur YouTube aussi, où on a une chaîne de clips, c'est-à-dire on compile les clips des artistes qui sont chroniqués, et puis tous les trimestres, il y a une chaîne de clips des artistes qui ont été chroniqués. Et on est présent également sur la plateforme américaine Free Music Archive. Donc là, c'est une plateforme en fait où c'est un espèce de silo à musique, hein, où les albums sont disponibles en téléchargement. Et donc on ajoute les albums qui ont été chroniqués sur Zik Li Bambi, qui sont gratuits et qui ne proviennent pas de Netlabel, sur Free Music Archive. Donc on participe aussi à notre modeste niveau à Free Music Archive. Oh, je sais pas si le...
un mot peut-être sur l'élection du titre de l'année.
Alors oui, l'élection Zik Li Bambi, en fait, c'est une opération qui est menée tous les ans. Donc on propose en fait aux bibliothèques qui veulent participer tout un matériel, un matériel en fait avec les affiches, les flyers, la compilation. Donc là, cette année, par exemple, il y a 11 titres. Donc cette compilation est téléchargée, fallait s'inscrire sur le site, il y a un site dédié hein, pour l'élection. Il y a une compilation de 11 titres et on invite les usagers des bibliothèques à voter pour leur titre préféré. Parmi ces 11 titres, donc c'est des 11 titres d'albums qui sont sortis en 2016, qui ont été chroniqués sur Zik Li Bambi. Et donc dans ces 11 titres, il y en a un qui va être sélectionné pour le titre de l'année Zik Li Bambi 2017. Cette année, on a 108 bibliothèques qui sont inscrites sur la France. L'année dernière, on en avait 80 et on avait eu 1024 votes. Donc là, cette année, on ne sait pas pour l'instant combien de votes il va y avoir. Les usagers peuvent voter soit sur le site internet, soit dans les bibliothèques participantes via une urne qui est mise en place par la bibliothèque participante pour que l'usager vote directement sur papier chez eux. Et
Moi, j'ai une petite question. Là. J'aime beaucoup les visuels. Là. Qui est-ce qui vous fait les visuels?
Alors, les visuels, en fait, soit c'est des personnes de connaissance. Par exemple, cette année, c'est un professeur de dessin, Dominique Drier, qui est basé sur Argentan. à qui on a demandé, donc qui a accepté bien volonté de faire l'affiche. Les autres années, on a aussi cherché sur Internet des visuels libres. Et donc, on a contacté les artistes pour leur demander si on pouvait utiliser leur visuel pour cette élection.
Très bien, merci. On reviendra sur Zik Libre en Bible dans le cours de la discussion. On va donc passer à la Sonothèque Normandie, donc avec Sophie Cornière. Donc, pour ne pas bouger le PC, on est obligé de bouger le doigt qui appuie sur le PC.
Eh bien, bonjour. Donc, Sophie Cornière, je vais vous parler de la Sonothèque, un projet que nous avons mis en place à Rouen. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est parce que Rouen est une ville rock qu'on a mis en place ce projet, mais toujours est-il que voilà. Je vous ai mis en première présentation le nom de la place Dominique Laboubé. Dominique Laboubé, c'était le leader des Dogs. Et en fait, à Rouen, nous avons une place dédiée à un groupe de musique rock, entre autres. Mais voilà. Donc, quand la musique pop-rock entre au patrimoine. Donc, pendant longtemps, les bibliothèques ont constitué des collections cohérentes, d'abord de 78 tours, ensuite de 33 tours, et puis après de disques compacts. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, n'est-ce pas? Mais donc, comment dire, pour indiquer que le vinyle n'est pas ne sert pas qu'à faire des ateliers d'animation et fabriquer des vide-poches ou des saladiers. En fait, on s'est lancé dans cette opération. Donc, beaucoup de bibliothèques, en fait, s'étaient séparées de leur fonds vinyle. D'autres pas. Ça a été notre cas en Normandie, où quelques bibliothèques ont conservé leur collection. Ça n'a pas été évident parce qu'en fait, il a fallu les défendre, éviter qu'elles partent à la benne. Et puis surtout faire comprendre que la musique pop-rock, en fait, maintenant faisait partie du patrimoine et des collections patrimoniales. Ça a été le plus dur. Donc, la naissance de la Sonothèque. Donc, parallèlement au fait que nous ayons conservé nos collections, il y avait une association qui existait en Normandie qui s'appelait à l'époque la Saucisson, qui s'appelle maintenant la Fabrication. Ils sont devenus un peu plus légitimes, donc ils ont pris un nom un peu plus sérieux. Et donc, en fait, cette association, au départ, est née pour conserver les enregistrements qui se passaient dans leur studio d'enregistrement. Et puis, il y a eu les projets d'appel, les appels à projets numériques. Et en fait, ils se sont lancés. Et donc, ils ont obtenu cette subvention. Et maintenant, ils se sont lancés dans un travail de collectage. Donc, ils ont numérisé leur collection, mais aussi les nôtres. Et ça tombait bien parce qu'en fait, on n'avait pas trop les moyens de le faire. Donc, ça nous arrangeait bien. C'est la seule association de ce type en France. Et puis, très vite, en fait, le succès a été au rendez-vous. Et d'un travail de conservation, en fait, on est passé à un travail de recensement. Les groupes locaux ont très vite vu l'opportunité qu'il y avait à être présents sur le site de la Sonothèque. Ils redevenaient visibles pour leur public, occasion qu'ils n'avaient plus avec la disparition des disquaires. Et donc, en fait, la Sonothèque s'est très vite trouvée envahie par des demandes de groupes encore en activité. Ce qui n'était pas le cas au départ. Donc, nous avons saisi l'opportunité. En fait, quand on a commencé à réfléchir aux offres de musique numérique à destination des bibliothèques, on a vite fait le constat qu'on ne pourrait pas faire mieux que YouTube. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la présentation de Nicolas. Que le coût de certains abonnements numériques n'était pas du tout dans nos moyens. Et donc, en fait, nous nous sommes tournés naturellement vers la Sonothèque et on a amplifié la collaboration qu'on avait déjà avec cette association qui possédait un site Internet. Et puis aussi, en fait, ce projet est entré dans le cadre des projets BNR, Bibliothèque numérique de référence. Donc, nous avons financé une application pour smartphone et tablette qui permet d'écouter en streaming, mais aussi hors connexion. Cette application permet aux bibliothécaires musicaux de faire leur métier, c'est ce qui est quand même le plus important, en constituant des playlists thématiques, en étant, euh, enfin, en étant créateur de contenu, parce qu'on peut, on peut écrire des critiques, des biographies, faire le lien avec des vidéos directement depuis l'application en se connectant sur le compte. C'est une application qui est ouverte et qui permet d'ailleurs à chacun en fait de pouvoir participer à la construction de cette base de données de musiciens locaux et régionaux. Et puis, notre travail aussi, c'est de faire connaître aux musiciens locaux et régionaux l'existence de cette application, de ce site, pour pouvoir éventuellement y être référencé. Donc, on est en plein dans nos missions, le patrimonial, le local et la médiation. La médiation. En fait, pour valoriser cette application sur place, nous avons mis en place deux fauteuils connectés. Donc, vous en avez un ici, c'est celui de Saint-Sever. Et un autre, en fait, mobile, qu'on déplace sur le réseau en fonction des animations. On a un festival étudiant et la bibliothèque, il y a un stand. Donc, en fait, on envisage d'y mettre le fauteuil en démonstration et sur d'autres manifestations culturelles. On a aussi, Vincent parlait de rematérialiser la musique. C'est assez étonnant, puisqu'en fait, on est sur une journée d'études de dématérialisation, plutôt, enfin, sur le numérique. Mais nous aussi, en fait, après avoir mis ce fauteuil en place, on a rematérialisé ce qui était dématérialisé en créant une démothèque. Donc, un espace où on trouve les CD des groupes locaux et régionaux. Et ça marche plutôt bien, et ça permet de visualiser un peu ce qui n'est pas visible. Ça demande beaucoup de temps, tout ça, bien sûr. Mais en fait, ça demande beaucoup de temps, mais ça fait partie de nos missions. On est plus tellement sur une phase de développement. Là, ça fait 18 mois que les choses tournent. Bon, on va être franc, c'est pas simple. On a, comment dire, rencontré beaucoup de problèmes liés à la connexion des tablettes, le Wi-Fi, les batteries, enfin tout ce que vous connaissez déjà, je pense, en bibliothèque. Les équipes à former aussi, puisque l'application en fait est disponible sur toutes les bibliothèques du réseau, mais il n'y a que dans la bibliothèque Saint-Sever qu'il y a du personnel, enfin des discothécaires. Et ce qui fait qu'en fait, il a fallu former les collègues sur le réseau et puis surtout les faire adhérer à ce projet. Et puis, continuer à créer des playlists. On en faisait déjà avec YouTube, des playlists qu'on mettait sur notre portail. Donc là, en fait, on continue à le faire sur YouTube et aussi sur la Sonothèque, bien sûr. Et puis, on continue un travail de veille et de collectage par rapport à la musique locale et régionale. Voilà.
J'ai une petite question. Les fichiers numériques sont stockés où ? Ils sont stockés chez vous ou...
Non, ils ne sont pas stockés chez nous. Ils sont stockés par l'association. Non, on est vraiment des opportunistes sur ce coup-là, j'avoue. Hein. Et en fait, les fichiers sont stockés sur le site de l'association directement. Nous, on héberge rien. On a juste payé l'application et on en tire les bénéfices.
Merci, Sophie. Donc, on va traverser la France pour se diriger vers Grenoble. Avec Émile Morès, donc, qui va nous parler de la numothèque, et en particulier dans sa dimension musicale.
Je vais vous parler plus que de la numothèque, parce que moi j'avais préparé un grand, un super grand PowerPoint avant d'être frustrée par mon camarade. Donc je vais tailler dedans un peu à la machette. Alors, donc moi je vais vous parler de nos trois outils de musique numérique dans les bibliothèques de Grenoble. À commencer par le blog Bémol. Alors moi, j'ai pas la même chose à l'écran, c'est assez perturbant. Ouais. Donc Bémol est né en 2007. On a décidé de créer ce blog dans un contexte en fait national de baisse des prêts de CD. Notre volonté à nous, c'était d'être vraiment présent sur le net et de se rapprocher au mieux des, à l'époque, nouvelles pratiques d'écoute en ligne et de retrouver un rôle de prescripteur, parce qu'à l'époque, on travaillait énormément à l'autonomisation des publics et ils sont devenus tellement autonomes qu'ils n'ont plus trop eu besoin de nous, en tout cas en termes de prescription. Et on avait aussi très envie de renouer avec l'écrit. Donc Bémol. J'ai un problème avec mon PowerPoint, il ne veut plus. Comment je fais ? Ben, je veux faire défiler, ça ne défile pas. Ah, voilà. Alors, grosso modo, bémol, ça ressemble à ça. Il y a ça aussi ? D'accord. Avec donc un accès à un détouch, on en parlera plus tard. C'est perturbant, je suis désolée, je n'ai pas accès aux mêmes choses sur mon écran. Donc, on va passer assez vite, mais on n'avait pas vraiment envie de désolidariser le numérique du physique. Donc, la volonté d'un bémol, c'était de chroniquer des CD qui étaient présents dans nos collections et de réaliser des vidéos thématiques, mais aussi de mettre en place un travail de partenariat avec la scène locale. Donc, on travaille avec une association qui s'appelle Retour de scène Dynamusique. On propose des showcases en bibliothèque qu'on filme, qu'on monte et qu'on peut retrouver après sur bémol. Il y a effectivement un peu comme à l'animothèque des bacs de scènes locales dédiées. On travaille avec les festivals locaux, donc on crée des discographies, on fait de la captation de vidéos, on a mis en place des tarifs préférentiels pour les détenteurs d'une carte de bibliothèque. Donc tout ça est relayé sur bémol et on a également mis en place un partenariat avec la SMAC. C'est-à-dire qu'on labellise des concerts d'artistes qu'on a envie de mettre en avant et de soutenir. On écrit des articles là-dessus qu'on met en ligne sur bémol et après sur les réseaux sociaux. Le comité de rédaction concrètement de bémol se compose de 5 personnes. On est en tout une quinzaine, on va dire 15 discothécaires sur la ville. Donc 5 personnes composent le noyau dur de bémol. Le noyau dur, ça veut dire gérer un planning de rédaction, mettre en ligne les articles, mettre en ligne les discographies et les vidéos. Ça veut dire capter les concerts, les monter, les mettre en ligne aussi, animer les pages Facebook et Twitter. Ça veut dire rédaction d'articles, mais là c'est une mise en commun, donc tout le monde est, dans la théorie, tout le monde est amené à écrire des articles sur bémol. Après 10 ans d'expérience, c'est de moins en moins le cas malheureusement. Le temps de travail estimé par semaine est de 4 heures pour le comité de rédaction. Et le ton employé a été un problème pour nous, parce qu'on a été donc créé en 2007. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de blogs musicaux. Je crois qu'il y avait peut-être Mediamus à l'époque déjà. Et donc, on avait un petit peu de mal avec le ton qu'on employait dans les articles, mais on s'est revendiqué blog non institutionnel, donc garanti sans conservateur. Donc, on s'est parti du principe qu'on pouvait employer un ton un peu plus léger. Ça ne marche plus non plus. Bon. Est-ce que quelqu'un peut nous aider ?
Le régisseur pourrait peut-être nous aider. Voilà, le voilà.
Merci beaucoup. Alors, ça c'était pour bémol. On va passer après au projet BNR pour articuler les trois services musicaux en ligne que nous avons. Donc en 2012, dans le cadre du projet BNR, les bibliothèques de Grenoble se dotent de services numériques. C'était très important pour nous de trouver un service musical qui se rapproche au mieux des pratiques des usagers. Ça a été très compliqué, donc au vu du peu de considération que les prestataires accordent aux collectivités, donc Exit, Deezer, Spotify ou Qobuz. Nous avions un intérêt pour MusicMe, mais le coût considérable de 35 000 euros par an nous a un peu refroidis. Donc la commission musique s'est tournée naturellement vers un détouch pour son prix plus abordable, son caractère équitable et le soutien aux entreprises locales parce qu'ils sont situés donc à Saint-Étienne, donc dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Un détouch, donc on va le faire rapidement, donc c'est une plateforme d'écoute de streaming d'où la rémunération est équitable pour les ayants droit. On a lancé le service le 18 septembre 2015. Le catalogue était assez intéressant, donc actuellement 107 000 albums, 98 000 artistes et 13 000 labels. Un détouch pour nous n'aurait aucun intérêt sans l'éditorialisation. Donc tout ce que je vous raconte, depuis bémol, de passant par un détouch jusqu'à la numothèque, pour nous, le principal, c'est d'éditorialiser, excusez-moi. Donc c'est de prescrire, de rédiger, de sélectionner, de mettre en avant, de diriger quelque part. Donc voilà grosso modo la page d'un détouch, on va passer assez vite. La recherche thématique, comme vous l'avez présenté Nicolas, la recherche par boîte de saisie. Concrètement, les avantages d'un DayTouch. Donc, une éthique vis-à-vis des artistes rémunérés, donc à hauteur de 29 centimes par clic, contre 0,03 centimes sur Deezer et autres plateformes. Une interface claire, une navigation plutôt intuitive. Un coût modéré. Donc, nous, actuellement, on a le forfait 5 100 € par an. Une équipe réactive et passionnée, ça c'est une certitude, et un catalogue d'artistes indépendants, donc toujours important de les valoriser. Malheureusement, il y a des limites aussi à chaque service, donc les limites d'un DayTouch après utilisation de ton agronome, les retours qu'on peut en faire, c'est la récurrence des bugs. Un catalogue très riche, mais sur lesquels on n'a pas la main. Vous allez voir plus tard sur la Numothèque, on a pas mal de ressources numériques où on fait un travail, nous, de sélection. Sur un DayTouch, c'est un catalogue tel quel. On n'a pas la main dessus. Parfois, on peut se poser la question de la pertinence de l'acquisition de certains labels, donc des musiques traditionnelles de Géorgie ou autres, sans faire un point.
Enfin, voilà. Bienvenue aux Géorgiens dans la
voilà.
salle.
Voilà. Zurich, bon. Passons. Alors, c'est, effectivement, devant la masse, l'utilisateur peut être noyé. Beaucoup d'artistes sont complètement inconnus sur un DayTouch, ce qui contribue à la noyade. Le service réservé aux utilisateurs curieux, donc effectivement, si on n'est pas curieux, on ne va pas sur un DayTouch, ce n'est pas vrai. Ça nécessite pour nous un gros travail d'éditorialisation. Il y a malheureusement l'impossibilité d'exporter des players. Donc pour nous qui avons un blog comme Bémol, c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir extraire les players d'un DayTouch pour les mettre soit sur les pages Facebook, soit sur Bémol. Et il y a aussi un énorme problème d'intégration de la scène locale. Donc, toujours soucieux donc, de mettre en lien la musique numérique, les acteurs locaux et la musique vivante, on a travaillé avec la SMAC, donc la Belle Électrique, à une soirée de lancement. Donc on a lancé un DayTouch dans une soirée avec un blind test musical et une conférence musicale. Et on était également présents avec un DayTouch. On a animé un stand lors du marché des créateurs. Donc on travaille également avec les partenaires, avec les festivals locaux, on s'en a déjà dit. Et au niveau de la commission musique, donc d'une quinzaine de discothécaires sur la ville, on s'organise pour éditer une capsule ou playlist tous les 15 jours. Concrètement, ça veut dire que chaque discothécaire est tenu de réaliser une à deux capsules par an. On a créé une sous-commission, un DayTouch, qui est composée de 5 collègues. Donc, grosso modo, c'est le comité de rédaction de Bémol qui s'occupe aussi d'un DayTouch. Qui veille à la réalisation d'un planning de rédaction, à la relance des collègues qui auraient oublié que c'était leur tour de réaliser une playlist, et à la mise en ligne des playlists. Les thèmes ne sont pas imposés, donc chacun réalise des capsules playlists sur les thèmes qu'il veut. C'est vrai qu'on essaie souvent de faire des liens avec l'actualité musicale sur la ville, donc discographie de festival, choses comme ça. On est tous très conscients que sans éditorialisation, le service perd tout son sens. Et en plus, malheureusement, c'est une réalité aussi. Si on ne demandait pas aux collègues de faire des playlists, ils ne s'empareraient pas de l'outil. Le temps de travail estimé, c'est 5 à 6 heures par an pour un collègue ne faisant pas partie de la sous-commission et 35 heures pour les autres. Ensuite, la Numothèque. Donc la Numothèque, c'est notre portail numérique. Il a été mis en place entre 2014 et 2007 avec un projet BNR afin de faciliter l'accès aux ressources numériques en ligne et de les valoriser. Parce qu'avant, pour accéder aux ressources numériques, il fallait qu'on passe par le site des bibliothèques, qu'on fasse une double inscription, enfin une double connexion sur le site des bibliothèques et sur une plateforme de la ville, plateforme grâce à laquelle on paye la cantine des enfants, on renouvelle les tickets résidents. Enfin bref, ça noyait complètement l'utilisateur, c'était pas du tout évident. Lors de la création de la Numothèque, on a demandé l'implication des équipes. Donc, on a créé des groupes de travail et également des groupes d'usagers. Donc, on a travaillé avec un panel d'utilisateurs, un test d'utilisateur qui a été réalisé sur 5 jours par Usabilis, donc une boîte externe. Et la volonté, c'était vraiment de faciliter au maximum l'accès aux ressources numériques et de valoriser leurs richesses. Donc voilà un peu le visuel de la Numothèque, à quoi ça ressemble. Donc vous voyez qu'on fait des sélections, donc toujours on éditorialise au maximum. Voilà, une petite sélection, ça ressemble à ça. Donc il y a un petit peu de texte et en bas de l'écran, donc ça, c'est pas visible, mais il y a l'accès aux ressources. On peut accéder à la musique par l'onglet directement musique, donc qui avec un agrégateur de nouveautés. Donc là-dessus, par exemple, on n'a pas la main, d'où la contrainte des labels de musique géorgienne. Qu'ils n'ont pas forcément, on va dire, un produit d'appel. Le problème, c'est que donc on n'a pas la main sur ce qui s'affiche. Et parfois, ça peut être, par exemple, que de la musique de bruit blanc. Ça peut être que de l'électro hyper indépendante que personne ne va connaître. C'est un peu... On aimerait pouvoir avoir la main sur ce qu'on met en avant sur la page d'accueil musique, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà une notice donc d'un des touch depuis la pneumothèque, à quoi ça ressemble, avec un accès direct à un des touch. On peut également accéder directement à la plateforme à un des touch après identification sur son compte abonné et accès par le menu. Voilà, donc comme toujours, montrer mais expliquer, face à la richesse des différents catalogues cumulés, donc besoin d'éditorialiser, de prescrire, de guider, de mettre en valeur. Les sélections sont pour l'instant réalisées sur la base du volontariat, au gré de l'actualité et sans fréquence préétablie. La page d'accueil donc agrège les nouveautés, mais pas toujours très flatteur pour la musique, donc ça je viens de vous en parler. Les équipes ont été formées lors de matinées numériques. Le service informatique a fait des tournées de présentation de Bibook, de la Numothèque, auprès des équipes, auprès du public. On a formé un panel de contributeurs au portail et donc le service informatique a animé également donc une dizaine d'ateliers numériques par an. Évaluation. Donc les statistiques de Bémol sont assez similaires à celles de Zik Libre en BIM en fin de compte. Donc on a à peu près 24 000 sessions ouvertes par an, donc ce qui fait du 2 000 connexions mensuelles, 34 000 pages vues. On a beaucoup de nouveaux visiteurs, donc ça c'est des gens qui se connectent sur des articles via des mots-clés très spécifiques. Malheureusement, on se rend compte qu'à l'année, l'influence des réseaux sociaux est minime. Parce que par exemple, sur Facebook, on a 940 connexions qui se font grâce à la page Facebook, 117 par Twitter. Donc bon, au vu du temps qu'on y passe, c'est quand même assez décevant. Voilà les pages les plus vues sur Bémol, donc vraiment des articles très spécifiques, notamment sur tout ce qui est musique celtique, le dernier Prince, la scène musicale grenobloise, donc ça nous fait un peu de bonhomme au cœur, le top 15, balade musicale dans les Highlands, voilà, vraiment tout ce qui est musique celtique, ça cartonne. Sur un des touch, on a actuellement, enfin en 2016, on avait 1050 usagers inscrits et 576 actifs. Donc les statistiques d'un des touch sont très bien faites. Vraiment, on arrive à avoir des choses assez intéressantes. Donc là, vous avez la courbe des inscrits avec une nette progression en septembre 2016, septembre-octobre, qui correspond au lancement de la Numothèque. Comme quoi, effectivement, en valorisant mieux les services, on arrive à ce qu'on voulait, quoi, donc à plus de connexions. Voilà, après vous avez les durées maximales d'écoute, la répartition des écoutes par genre, donc on voit que actuellement c'est la musique du monde qui caracole en tête, suivi du jazz, de la musique alternative, pop, rock, musique classique, répartition des écoutes par artiste avec Amélie les crayons, suivi d'Ibrahim Malouf, bon, sans trop de surprises. Donc ça c'est quand même intéressant. Le nombre de clics sur des éléments appartenant à des capsules. Et en dessous, la répartition globale des clics. Donc là, on se rend compte aussi qu'effectivement, les connexions par les capsules et les playlists sont aussi assez faibles. Donc c'est important d'éditorialiser, mais malheureusement, ça ne paye pas encore énormément en termes de connexion. Donc le nombre d'inscrits aux bibliothèques de Grenoble actuellement est de 35 000. Les inscrits à Numothèque en 2016 sont 2500. Donc grosso modo, actuellement, on a 3500 inscrits depuis 2017 inclus. Donc ça fait 10% des inscrits aux bibliothèques de Grenoble qui se connectent à la Numothèque. Je ne tirerai pas de conclusion par rapport à ces chiffres. Je vous laisserai le faire par vous-même. Actuellement, 2500 usagers se sont connectés au moins une fois depuis le lancement de la Numothèque. Donc on a des graphiques donc réalisés par Guillaume Hatt sur les pages vues, les sessions. Donc on a actuellement 10 000 sessions par mois, 2500 usagers inscrits, 31 853 morceaux écoutés. Voilà.
Merci Emeline. Donc le prochain article sur le blog, si vous avez compris, c'est sur l'électro à Tbilissi. Hein. Alors on va de nouveau traverser la France, mais donc vous dirigez vers Bordeaux avec la Gironde Music Box.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nicolas Clément, je travaille à la Bibliothèque de Bordeaux. Je suis chargé de projet pour la coopération musicale au niveau de la métropole, qui est un réseau en fait, où il n'y a pas de compétences culturelles, mais pour laquelle il y a une volonté des villes appartenant à la métropole de se fédérer sur un réseau de bibliothécaires. Je suis aussi représentant des bibliothécaires musicaux d'Aquitaine, du groupe, avec Sylvette Peignon ici présente, et Maxime Rivière, qui est au fond de la salle, qui se cache, qui participe aussi à la Gironde Music Box, puisque je parle de lui parce que c'est un projet collaboratif et que tout le monde a, donc, a droit à représentation du site. Donc ce site est un site qui revendique une forme de militantisme, puisque c'est un site qui est né d'un groupe de travail porté par des bibliothécaires, groupe régional de la CIM, né d'une réflexion, voilà, presque 6 ans, sur le fait de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir travailler à des outils collaboratifs. Rien ne nous a semblé plus évident que de travailler sur du numérique entre collègues de la, j'allais dire, de la région Aquitaine. En fait, pour plus précisément, de la Gironde, puisqu'il est beaucoup plus facile de se retrouver entre collègues géographiquement que sur l'ensemble de toute l'Aquitaine. Donc l'idée a été au départ de trouver un outil numérique qui permette de référencer les animations que nous pouvions faire au niveau de nos structures afin de pouvoir nous fédérer pour mieux repérer en fait les intervenants, les associations qui pourraient éventuellement intervenir dans nos structures. Finalement, très rapidement, nous nous sommes rendus compte que les animations que nous portions au sein de nos structures n'étaient qu'un faible reflet de tout ce qui se fait au niveau de la musique. Et cette réflexion a pris part dans un cadre que vous connaissez peut-être à peu près tous, qui est celui de la crise du modèle de la musique au tournant des années 2000. Crise de la musique qui, en fait, repose sur une crise du modèle de production de la musique, et de la diffusion et de l'écoute de la musique. Aujourd'hui, on peut s'affranchir d'un label ou d'une distribution pour créer de la musique et pour la faire connaître sur l'ensemble de la planète entière, hein, via l'Internet. Et on peut communiquer du coup avec des moyens de communication qui sont autres que le simple CD. Donc c'était aussi une manière de répondre à l'appel du message de la CIM, comme quoi il n'y avait pas assez de musique en bibliothèque et qu'il fallait diversifier l'offre et aller vers les nouveaux usages des usagers et des mélomanes en proposant nous-mêmes des ressources numériques. Donc je ne vais me vous affranchir du PDF que j'avais prévu de vous montrer, vous le verrez en ligne. Je vais vous montrer directement ce qu'est la Gironde Music Box en vous montrant très rapidement un site qui a été donc refondu. Donc c'est la deuxième version du site qui est en cours de lancement. Je dis en cours de lancement parce qu'on compte vraiment lancer une inauguration dans un grand événement à la Nuit des Bibliothèques qui va être portée donc, par Mélanie Archambault, donc, qui est la responsable de la coopération métropole à la Bibliothèque de Bordeaux. Et nous voulons associer en fait une ressource numérique pour, comme on le disait tout à l'heure Vincent, aller vers la rematérialisation du numérique. Là, c'est se servir d'une ressource numérique pour créer de l'événement, créer du contenu autour d'une manifestation nocturne. Donc le site en lui-même, vous voyez, propose une architecture très simple avec trois panneaux. À gauche, vous avez la playlist du mois. À droite, vous avez une revue de presse faite à partir d'une cinquantaine de ressources qui vont de journaux de quotidien comme Sud-Ouest ou de gratuits comme CNews, mais aussi de revues comme John Page, enfin, il y a de webzines, etc. Au centre, vous avez le panneau sur lequel vous êtes, c'est un panneau d'accueil, mais vous voyez que si je me place sur n'importe quel onglet, je vais partir sur la thématique, ici par exemple le rock avec un classement alphabétique. Mais je n'ai pas que des artistes triés par esthétique musicale, alors on est parti aussi sur l'idée de ce site pour que ce site rende compte de toute l'activité musicale, c'est-à-dire à la fois des artistes qui sont en label. Il faut savoir que dans l'Aquitaine, nous avons une fédération des labels aquitains où il y a plus de 40 labels représentés, mais aussi des artistes qui sont soit des artistes qui publient des contenus qu'en numérique et qui ne sont pas forcément visibles dans nos collections. Collections qui peuvent aller, par exemple, pour le réseau des bibliothèques de Bordeaux, de 3000 CD de fonds local en emprunt à la bibliothèque Mériadec, jusqu'à 50 ou 100 CD perdus au milieu d'autres collections pour d'autres bibliothèques. Donc il y a une grande disparité au niveau des collections des supports CD. On a tenté à travers ce site de pouvoir redonner une autre vision de la bibliothèque, de la scène musicale, dans toutes ses composantes esthétiques et dans toutes ses dimensions. Par exemple ici, sur le réseau, vous avez aussi bien des associations, vous avez actuellement plus de 100 associations musicales qui œuvrent pour la programmation musicale en Gironde. Vous avez aussi, par exemple, des magasins de disques, donc dans une partie qui s'appelle distribution, d'accord. Vous avez des labels, là pareil, hein, il y en a beaucoup. Des festivals, et plus d'une centaine, 130 festivals sur la Gironde. Donc ça permet aux bibliothécaires musicales, là je me parle du point de vue professionnel, d'avoir une vision de la musique en Gironde qu'ils n'auraient pas par un outil, un moteur de recherche généraliste comme Google. Donc cette veille sur les festivals, les artistes, les salles de concert, nous le faisons à partir d'un travail quotidien sur la base des flyers que nous pouvons trouver un peu partout dans Bordeaux, sur de la veille de sites, de webzines. Tout est bon pour pouvoir récupérer de l'information. Je vais vous donner un exemple de ce que, par exemple, peut être une fiche type... Donc il y a une recherche, bien sûr, au titre. Vous arrivez sur un bandeau avec à chaque fois soit une photo du groupe, soit une pochette de disque. Savoir que ce site a eu pour volonté, contrairement à Le Music Box de Limoges, qui était parti dans une ambition très noble de faire de l'éditorialisation et de la rédaction, qui a été un petit peu aussi quelque chose qui a été trop chronophage et qui a un peu tué leur projet, puisque le pool de personnes qui participaient s'est réduit énormément faute de temps. Nous sommes partis sur un autre point de vue. Nous citons en fait les sources à partir desquelles nous faisons des copier-coller, notamment à partir des Facebook des groupes, puisque la plupart des groupes, des associations, des festivals ont des Facebook. Et donc nous rapportons le contenu sur la page de présentation. Donc concrètement, quand on crée une fiche, on ne rédige rien, si ce n'est un copier-coller et une mise en forme à partir d'une charte rédactionnelle que nous avons à disposition des contributeurs. Nous notons les membres du groupe et toutes les associations, les bars, les festivals d'artistes sont tous indexés. Donc nous avons créé un petit corpus sur une base d'indexation Rameau, pas développée bien sûr, donc un des pop rock. Et nous proposons à chaque fois, vous voyez, en deux clics, de pouvoir accéder par exemple à du contenu, ici du contenu YouTube. Et donc, dans ma structure, si je veux faire un concert, faire venir Brutus 64, en deux clics, je peux commencer à visionner, voir ce que fait ce groupe. Donc, je vous passe ce clip-là parce que c'est le clip qui a été sélectionné, un des meilleurs clips de l'année pour Canal+, l'émission Antoine Decaune, qui avait. Donc, il a été multidiffusé pendant presque un mois sur Canal+. Et donc, on voit que la scène musicale girondine, c'est pas uniquement un recensement d'artistes, c'est aussi une mise en forme du territoire, puisqu'on voit à partir de ce clip le quartier Mériadec, par exemple. Donc Vishnous, qui est un des créateurs du groupe Brutus 64, est aussi dessinateur et donc affilié à toute une scène de graphistes et de maquettistes. Bon là, c'est très particulier puisque c'est son clip Fuck You. Donc, je tenais à vous le montrer parce que montrer la qualité professionnelle d'artistes qui sont pas forcément, bon là, lui il est en licence avec un label, mais je peux vous passer d'autres clips où la même qualité quasi professionnelle sera au rendez-vous. Bien sûr, j'ai aussi une sélection sous SoundCloud que je peux bien sûr exporter, hein, ce que disait Nicolas Mondeau tout à l'heure. L'idée c'est aussi de pouvoir exporter les contenus. Et la Gironde Music Box, c'est aussi, et ça c'est quelque chose qu'on avait envie de faire et qui est assez récent, une histoire de la scène musicale girondine. Et par exemple, ici, vous avez quelques des figures. Par exemple, vous avez les Blousons Noirs, qui est un des premiers groupes de rock'n'roll français publié, réédité sur un label parisien, Born Bad, qui est un des premiers groupes de rock'n'roll en France, bien avant Johnny Hallyday, Vince Taylor, Daniel Gérard et compagnie. Vous avez bien sûr des groupes comme Gamine, Kid Pharaon... Et par exemple, l'intérêt d'avoir aussi des vignettes musicales, c'est aussi, par exemple, de montrer Un autre regard aussi sur, par exemple, Bordeaux et sa région, puisque on peut bien sûr héberger des vidéos qui maintenant ont une valeur patrimoniale, puisque ici c'est la sortie du disque Tostaki, et à travers ce reportage de France 2 on va pouvoir voir le Saint-Michel qui a complètement changé le quartier de Bordeaux. On voit les Noirs Désirs en fait en compagnie de militants et de SDF du quartier. Donc là c'est juste l'intégration d'une vidéo dans une notice, un lien qu'on dépose.
Des quartiers en rénovation, des sans-abri, des exclus. Celui où ils ont vécu, celui où ils traînent encore, parce que todo está aquí, tout est là, dans ces rues, qu'elles soient de Mexico ou de Bordeaux, pour qui sait regarder.
Donc vous avez le même principe pour toutes les fiches. Ici, vous avez une actualité musicale, d'accord, sous SoundCloud. Et donc l'intérêt du site, c'est que je peux, dès la bande d'accès, aller vers... nos sélections. Ici, vous avez les sélections mois par mois, que bien sûr, on reroute par Facebook, par les réseaux sociaux. Nous avons fait, depuis que le Facebook a été lancé il y a un peu moins d'un an, près de 100 postes d'envoi. Nous avons donc ici le Facebook. Donc, on reroute aussi des informations des bibliothèques. Nous avons aussi la Gironde Music Box, c'est aussi par le biais de Discogs, un référencement depuis 1960 des disques girondins qui sont référencés dans Discogs, donc ce site de référencement discographique. Nous arrivons à près de 3000 références, ce qui peut permettre à quelqu'un dans sa section, quand il est isolé et qu'il n'a pas forcément une presse papier, puisqu'il y a très peu de presse papier sur les scènes musicales, de pouvoir voir les sorties qui sont faites soit directement, soit par les labels. Donc, par exemple, vous avez aussi, donc c'est le dépôt légal imprimeur des labels, puisque Raoul Vignal étant un artiste lyonnais, il est sur un label Talit, qui est un label de la FEPIA, un label bordelais. Voilà. Nous avons aussi la possibilité, avec la Gironde Music Box, de voir ce que je vous disais plus directement, les sorties de manière avec un défilement peut-être plus succinct. Et puis nous avons ici une partie blog où nous regroupons sous une forme pareille, comme disait Emeline, de façon assez courte, peu de texte pour ne pas que ça prenne trop de temps. Une playlist fait à peu près, quand on est rodé, en 10-15 minutes, puisque par SoundCloud, nous sommes abonnés à plus de 500 artistes girondins. Nous voyons leurs publications minute par minute. Il suffit de les écouter et si les morceaux... si on a choisi une thématique nouveauté, d'exporter vers notre playlist les morceaux, et puis de faire un petit billet comme ça qui va être exporté par nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Nous avons après une partie moteur de recherche pour les sorties, ici, donc nous n'avons pas eu la prétention de faire mieux que ce que faisaient nombre de portails déjà girondins. Si, alors une petite partie que je voulais vous montrer, l'idée c'est de revenir à aussi l'idée d'original, c'est de pouvoir faire de la recommandation entre collègues et par exemple d'indexer les artistes qui seraient passés en bibliothèque. Ici vous avez Blackbird Hill, c'est un groupe un peu à la White Straps et qui un duo musical donc qui est passé dans plusieurs bibliothèques. On a bien sûr, comme sa discographie, repris les interventions qu'il avait faites et puis on a indexé le groupe, ce qui nous permet de retrouver tous les groupes qui sont passés en bibliothèque. Très concrètement, ça veut dire que là, je peux, sur le réseau girondin, voir les groupes qui sont passés. Par exemple, le rappeur Charles X, je peux voir qu'il est, par exemple, intervenu à la bibliothèque Flora Tristan. Il a fait une rencontre avec les usagers. Et à ce moment-là, j'ai son mail, j'ai ses contacts, et je peux, en deux clics, contacter l'artiste. Voilà, donc l'idée, pour résumer, pour terminer, c'était donc de proposer la Gironde Music Box. J'ai dit que c'est un travail de militant qui maintenant trouve sa concrétisation au sein de nos structures, puisque la plupart des collègues qui travaillent sur ce projet collaboratif, 20 membres collaborateurs, 10 bibliothèques participantes, dont les reconnus dans leur fiche de poste de travail, bien sûr. Nous nous réunissons à la demande pour des groupes, des micro-groupes de travail, de réflexion. Sinon, nous essayons de nous réunir sur 3 grandes plénières par an. L'idée, donc, c'est de consolider cette solution numérique, on le dit bien, en libre, ce qui nous a permis de faire venir à nous des graphistes qui ont travaillé pour nous, pour la charte et pour la programmation du site, donc Pierre Lemaire et Xavier Bonin, qui n'ont pas compté leur heure, pour travailler sur le site, ce qui est vraiment une économie substantielle. Nous sommes prêts à redonner le code source, donc 5 ans de travail, à n'importe quel groupement de bibliothèques ou bibliothèques qui voudraient proposer la même chose. Il suffit de nous contacter, on vous donne le code source, vous avez toute l'architecture du site en main. Il vous suffira de changer de logo et de respecter une charte, j'allais dire, éditoriale. Enfin, après, c'est vous qui voyez, mais voilà, en gros, on est assez souple là-dessus. On est en train de le faire avec Pau, avec le Béarn Music Box, voilà, par exemple. Voilà, donc l'idée, c'est basé sur l'intelligence collective. Chacun peut rentrer à sa carte dans ce projet selon le temps qu'il peut y disposer. On n'est pas obligé de connaître l'ensemble du projet pour participer à ce projet-là. On peut ne participer qu'à la sélection musicale. On n'est pas obligé de créer des fiches. On peut, par exemple, comme ça va être le temps fort du lancement du site en octobre, pour la Nuit des bibliothèques, qui est un événement nocturne, intégrer d'autres bibliothèques qui ne participent pas au site en proposant, par exemple, des sélections musicales. Nous allons faire du mix dans les trams avec des associations et nous distribuerons des sélections musicales tirées de la Gironde Music Box. Enfin, vous voyez, c'est vraiment à tiroir, c'est quelque chose d'assez ouvert. Et ben voilà, l'idée, c'est de montrer qu'on peut, en local, rendre compte de la musique de notre territoire dans toutes ses composantes et uniquement, pas, j'allais dire, en prêtant des CD qui ne seraient qu'une simple vision de ce qui se fait sur le territoire. Voilà, j'essaie de faire court, mais il y aurait tellement d'autres choses à dire. On fait une poster session après, donc on pourra en parler.
Merci Nicolas. Donc bon, nous avons fait le tour là des différentes interventions. Il nous reste une demi-heure à peu près pour un temps d'échange, ce qui est pas mal. Moi, j'avais une première question à poser à nos intervenants. Là, c'est autour du concept de libre. Bon, on va pas avoir un débat de fond sur le libre, mais simplement, voilà, est-ce que le choix qui a été fait souvent quand même d'aller dans cette direction, bon, ça peut être un choix assumé et militant, dans Zik Libre en Bible, évidemment, ça va de soi, mais est-ce que c'est comment vous percevez ce choix? Est-ce que c'est pas un choix à un moment donné qui s'est fait un petit peu par défaut parce que c'est plus facile, c'est gratuit? Est-ce que c'est un choix, encore une fois, d'orientation par rapport aux missions des bibliothèques? Je dirais que c'est une problématique là qui se pose par rapport à la musique en ligne, qui bien évidemment ne se posait pas pour nous, ou du moins dans des conditions extrêmement différentes lorsque on gérait des collections physiques. Qui veut répondre à peut-être Vincent le plus logiquement?
Oui, c'est vrai que ça s'adresse avant tout à un public curieux, quoi. Ce qui est important, c'est que c'est tout un pan de création en fait qui est pas très médiatisé et qui est pas très connu, et c'est vraiment un vivier important d'artistes, quoi, qui des fois bascule après dans la filière traditionnelle de l'industrie musicale, mais disons il y avait tout un travail de défrichage à faire qui n'était pas fait par d'autres acteurs, et donc du coup les médiathèques peuvent se placer sur ce créneau-là. En prenant en compte la dimension culturelle en fait, que représente toute cette création là, et puis le travail de médiation à faire autour, quoi.
Est-ce que ça induit pas aussi le choix d'un certain genre musicaux quand même qui sont beaucoup plus représentés sur ce terrain là que d'autres?
Alors c'est sûr que par exemple si on prend la chanson française en fait, On a quand même un nombre d'artistes un peu limité. On va trouver moins de choses sur certains genres, quoi. Cela n'empêche qu'en fait, on a quand même tous les genres présents sur Zik Libre en Bible, que ce soit le classique, le jazz, la chanson. Mais c'est vrai qu'essentiellement, ce mouvement-là en fait, est né de la scène électro. En fait. Donc, à la base, il y avait beaucoup de musique électronique. Et puis, ça s'est élargi aux musiques actuelles et surtout à tout ce qui est pop-rock. Mais il y a quand même une représentation de tous les genres en fait, quoi. Après c'est vrai sur pas de la même ampleur, quoi.
Les autres par rapport à cette problématique?
Nous clairement oui, ça a été le libre un moyen de pouvoir s'affranchir peut-être de certaines contraintes liées à des contraintes elles-mêmes financières par rapport au coût que pourrait représenter la création d'une plateforme musicale, c'est évident. Et puis le libre, c'est quand même, par exemple, nous on était sous Drupal, on a migré vers WordPress. Il y a tout un travail qui est fait au niveau mondial d'amélioration de WordPress, autant au niveau du site que des applications qui peuvent être mises en ligne, qui est sans commune mesure, quoi. Donc c'est vrai que du coup, regardez, à partir d'une page, un blog WordPress, on a pu créer une architecture de site qui ne ressemble plus du tout à un site, à un blog classique, quoi. Enfin, c'est aussi cet avantage-là.
Pour la Sonothèque, en fait, les musiques ne sont pas libres. C'est pas des musiques en Creative Commons. La plupart des groupes sont déclarés à la SACEM, mais en fait, c'est l'association qui a fait un travail auprès des ayants droit pour s'assurer qu'on puisse disposer des droits pour écouter les morceaux. Donc, ce qui fait que sur l'application et le site de la Sonothèque, certains groupes, vous pouvez écouter tous les morceaux, et d'autres, en fait, vous ne pouvez pas écouter tous les morceaux parce qu'en fait, on n'a pas les droits.
D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait le logo SACEM sur le site de la Sonothèque.
La preuve.
Alors, c'est vrai qu'il y a un autre concept, qu'on peut tenter de confondre un petit peu, c'est le côté musique libre et puis label indépendant, ce qui n'est pas la même chose, effectivement. Lorsque Emine, tu disais qu'un des touchs faisait la part belle au label indépendant, c'est quand même un petit peu autre chose, même si ça reste quand même aussi une certaine volonté de mettre la lumière sur certains groupes.
Oui, alors c'est vrai que nous, tout ce qui est musique libre, on n'est pas du tout concerné. Après, la volonté de mettre la lumière sur les labels indépendants, oui, c'est un petit peu toujours la problématique du métier. Hein. On a envie de mettre en avant des choses qu'ils méritent, mais qui sont méconnues. Et après, derrière, il y a peut-être aussi un peu le retour de bâton du fait qu'il faut aussi réussir à intéresser les gens avec des choses qu'ils connaissent un minimum. Donc nous, on a pris le parti de mettre en avant des touches et de soutenir les labels indépendants. Le catalogue commence à s'enrichir avec des artistes qui sont quand même de plus en plus connus, donc on a bon espoir d'arriver à attirer un panel d'utilisateurs de plus en plus large. Pour l'instant, ça reste encore un petit peu timide, on va dire.
Excusez-moi, on a une question dans la salle.
Oui, allons-y.
Bonjour, Christophe Vial, Undetouch.
Ça va?
Mais c'est pas en tant qu'Undetouch, là, pour le coup, que je parle. J'ai passé une vingtaine d'années sur scène et je fais partie de ces groupes indépendants qui ont dû vivre de leur musique, chichement. Aujourd'hui, en fait, la question que je me pose par rapport au travail magnifique, pour le coup, la Magic Box, Bordeaux, Rouen, etc., en termes d'éditorialisation, de mise en valeur des artistes locaux. Mais ce qui m'interroge derrière tout ça, c'est la notion vraiment de rémunération des artistes. Pourquoi ? Parce que on nous a tous fait jouer, nous artistes, en nous disant, écoute, viens jouer dans ma soirée, je te paye pas, mais ça te fera de la pub. Et c'est tout le problème des artistes qui veulent devenir à un moment des artistes professionnels. Dans ce cadre-là, on essaye d'amener, nous, dans notre travail, une autre brique. Alors pourquoi ? Parce que je pose ma question, je vais faire rapide, mais les bibliothécaires représentent aujourd'hui 5% du marché d'achat de CD en France, ce qui est une énorme part, et en particulier sur les artistes locaux. Comme il y a une transition vers le numérique, en fait, cet achat commence petit à petit via vos fournisseurs habituels, CVS, Gamancy, les autres, à ne plus exister. Et je pense qu'il y a quelque chose à réinventer autour de la rémunération des artistes sur le numérique. Pour le coup, je vous invite, si vous le souhaitez, cet après-midi, à discuter pour qu'on puisse même réfléchir à comment interfacer vos solutions qui permettent une éditorialisation géniale du territoire en direction de contenus qui rémunèrent les créateurs. Voilà, enfin, comment vous considérez cette question, vous, en fin de compte, dans cette... Enfin, le problème de... Parce que c'est la diversité, en fait, culturelle, pour perdurer, qui a besoin de carburant économique, quoi.
Quelqu'un se sent de répondre à Monsieur Vielle ?
Nous, on ne s'est pas posé la question, effectivement, parce qu'on pense que ça a quelque chose, une problématique qui nous dépasse au niveau des bibliothèques. Nous, on n'a pas absolument pas la prétention de lancer ce site-là en disant que ça ne donnera pas à d'autres ressources. Hein. C'était vraiment qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'il y ait des ressources qui apparaissent, qui, correspondent à ce que rappelait Nicolas, l'exigence d'un service public de la culture qui soit à la fois encyclopédique, qui réponde à une médiation qui soit aussi inclusive maintenant auprès des usagers et qui ne soit pas simplement que la satisfaction de proposer une ressource en ligne, mais qui soit pas forcément consultée, qui soit que partiellement, qui ne rende compte que partiellement de tout l'ensemble des esthétiques musicales. Donc nous, on a même poussé le bouchon plus loin, puisqu'on ne présente pas que des artistes, on présente les tourneurs, les intervenants éventuels, même des patrons de labels qui peuvent intervenir en bibliothèque. Voilà. Donc après, sur la question de la rémunération, j'allais dire, on est bien sûr qu'on regarde d'un œil bienveillant les solutions numériques qui favoriseraient une rémunération des artistes. Là, nous, c'est vraiment qu'est-ce que nous, on peut faire à l'heure d'aujourd'hui pour proposer à la fois une solution numérique sur laquelle on a la main, qu'on peut faire évoluer, pour laquelle on n'est pas un besoin énorme de temps à consacrer, toujours sur la base du collaboratif. Plus on est nombreux, moins on en fait, hein, c'est toujours le même principe, sachant qu'il faut bien driver tout ça. Mais j'allais dire, pour répondre à votre question, ça va au-delà de la rémunération des artistes qui sont à label, ça va aussi un site comme la Gironde Music Box s'adresse à des artistes qui ne sont pas en cours de professionnalisation et qui sont des musiciens amateurs. Donc je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais nous avons maintenant développé un accès, créé une fiche où au lieu que les artistes nous écrivent sur la boîte mail du site, ils peuvent maintenant, le site génère un code d'accès, on peut, comme n'importe quel contributeur, un artiste peut créer sa propre fiche. Donc c'est vraiment le côté inclusif, les usagers qui viennent à la bibliothèque peuvent, s'ils sont musiciens, s'inscrire et créer leur propre fiche, et c'est nous qui la validons derrière. Donc on est au-delà d'une problématique, j'allais dire, de rémunération des artistes, même si effectivement la question que vous posez, elle est pertinente, quoi.
Oui, donc je plus sois tout ce qu'a dit Nicolas. Et puis, comme le faisait remarquer Marc, pour le site de la Sonothèque, bien, vous avez le logo de la SACEM, ce qui veut dire que nous payons notre contribution à la SACEM. De la même façon, on continue aussi à acheter des CD, donc on continue et on sonorise l'espace de la bibliothèque. Donc, on continue à payer largement, je pense, tout ce qui est droit d'auteur.
Il y a une autre question, c'est toujours Monsieur Vial.
Pardon, il faudrait préciser quand même que la SACEM ne concerne que la rémunération de l'auteur des textes et des compositeurs de la musique. Les artistes, dont les noms figurent par exemple sur les pochettes des albums, sont rémunérés exclusivement via leur producteur, donc pas via la SACEM.
Juste par rapport aux musiques libres, bon, le contexte est différent, mais par exemple, Zik Libambi va organiser en 2015 la tournée de Stig Jørgensen, un auteur-compositeur belge qui vit en Espagne et donc qui sort ses albums sous Creative Commons. Et donc cet artiste en fait est venu faire une tournée dans les médiathèques françaises organisée par Zik Libambi. Donc c'était le gagnant de l'élection Zik Libambi 2014. Et par ailleurs, je voudrais revenir aussi sur le libre n'est pas forcément gratuit. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui mettent en payant l'accès à leur album sur Bandcamp, par exemple. Alors nous, on chronique ces albums, mais après, l'accès, si les personnes veulent, les usagers veulent acquérir cet album, en fait, ils vont être obligés de payer en fait pour avoir le téléchargement sur Bandcamp. Donc, voilà. Donc le libre n'est pas forcément gratuit, et c'est des artistes en fait qui cherchent avant tout à avoir une visibilité et une dissémination très forte en fait via les réseaux, et qui estime généralement que l'outil internet en fait, par rapport aux usages qui en est fait, aux usages que les internautes ont, peut-être que voilà, les licences Creative Commons sont plus en adéquation avec ces usages là.
Pour terminer sur ce sujet, est-ce que votre démarche que vous pouvez avoir, soit en direction de la mise en avant de labels indépendants, soit mise en avant de la scène locale, est-ce que c'est une démarche qui est comprise de votre public, ou est-ce que vous avez une partie de votre public qui vous dit, qui est plutôt amateur de musique mainstream, qui vous dit oui, vous avez cette offre, mais c'est pas exactement ce que je veux. Enfin, est-ce que vous avez des réactions comme ça?
Pas trop. Pas trop. L'intérêt de la scène locale, oui, c'est sûr. Ça, par contre, il est fort. Donc, on en parlait, on a des difficultés à intégrer le catalogue de la scène locale actuellement sur Undertouch. Moi, je crois que vous y travaillez, hein, Christophe. tu me confirmes. Et sinon, après, on n'a pas trop de retours. On a du mal, en fait, à avoir des retours sur les, enfin, vis-à-vis avec le public, on a du mal à avoir des retours sur les ressources numériques. Les retours qu'on va avoir, c'est « j'arrive pas à me connecter », « j'ai essayé de me connecter, j'y arrive pas », « à quel est mon mot de passe, j'ai oublié ». Mais après, en termes de qualitatif, on en a peu.
Vis-à-vis de Libambib, c'est sûr que ça s'adresse quand même à un public curieux, quoi. Les gens qui savent exactement ce qu'ils viennent chercher à la médiathèque vont pas s'intéresser à cette offre-là. Par contre, un public qui est plus en recherche de propositions et de choses nouvelles, en fait, va venir nous voir. Et aussi par rapport au support qu'on propose, on propose par exemple de la musique libre sur clé USB. Donc des sélections, en fait, et on va avoir des personnes qui osent pas se frotter au numérique via les écrans, via leur connexion internet, et qui vont venir chez nous, en fait, pour emprunter ces clés USB qui sont clés en main, en fait, hein. Et donc par exemple à Argentan, on a fait le choix de d'acheter des clés USB lecteurs MP3, en fait, des baladeurs. Donc les gens repartent directement, en fait, avec une proposition de musique qu'ils peuvent écouter directement en sortant de la médiathèque.
Alors oui, juste pour revenir aussi, si l'offre ne satisfait pas les lecteurs, en fait, enfin les usagers de la bibliothèque, il y a aussi d'autres offres à côté. Le numérique, c'est pas la seule offre, c'est-à-dire que certaines offres correspondent à des publics de niche, et donc en fait, le fait d'accumuler plusieurs offres et de continuer à avoir une offre physique, finalement, arrive à contenter un peu tous ces publics de niche. Donc s'ils n'y trouvent pas leur compte, ils peuvent trouver leur compte d'une autre façon.
J'avais juste une question pour Vincent, donc Tiffany Guélam de la médiathèque de Créteil, hein, Nelson Mandela. Par rapport à votre offre de prêt de clé USB, là, je suis assez intriguée. C'est donc que de la musique libre, je suppose, dessus, hein.
C'est une offre, en fait, de musique libre sur clé USB, parce qu'en fait les Creative Commons, les licences permettent la copie, la libre diffusion, en fait. Donc, on copie les albums sur clé USB, et ces clés USB-là, on peut les prêter au public. Donc, par exemple, à Argentan, on a fait le choix de mettre 5 albums, parce qu'on sait que si on en met trop, les gens ne vont pas forcément tout écouter. Et donc, voilà, ils repartent avec la clé, avec une sélection. Donc, il y a plusieurs bibliothèques maintenant qui font ça. En même temps qu'à Argentan, il y a Toul qui a mis cette offre-là en place. Et puis après, il y a plusieurs bibliothèques. Il y a Passé, il y a Lisieux. Beaucoup de bibliothèques qui sont emparées de cette proposition-là, voilà, qui est une piste à suivre pour
mettre. Ça peut être des clés USB ou des CDR, hein, d'ailleurs.
Alors, ouais. Les CDR, c'est vraiment du CD, quoi. Là, on est sur, avec les clés USB, on est sur du format MP3.
Tu as les lecteurs avec.
Ouais.
Et en élargissant un petit peu, là, quelle était la réaction, je dirais, des tutelles par rapport au projet que vous avez porté les uns les autres, les tutelles de façon à la fois, je dirais, les élus, les maires ou les adjoints chargés des affaires culturelles, et puis de la structure administrative. Est-ce que vous avez le sentiment que ça les intéressait, qu'ils vous ont accompagné, qu'ils vous ont mis des bâtons dans les roues? Enfin, comment ça s'est passé?
Il y a des mots magiques à employer: innovation, numérique, local, patrimoine.
Comment mener son maire par le bout du nez?
Moi, je peux dire un mot, puis peut-être oui. Sylvette, qui est présente aussi, pourra dire un mot. Nous, on remercie. C'est aussi la raison pour laquelle on encourage les personnes à monter des groupes régionaux dans la région, puisque c'est aussi les statuts de la CIM qui nous ont permis de pouvoir monter un groupe et de nous réunir et de réfléchir, justement, 5 ans après, à pouvoir vous proposer l'expérience de la création d'un site comme celui-là. Donc effectivement, il y a la base associative compte énormément pour montrer qu'on peut faire, même si des fois c'est toujours un petit peu le problème quand on a envie de faire les structures, puis il y a tellement de raisons qui font qu'on est empêché. Donc moi, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de ma collectivité, de l'intérêt de mettre quelqu'un comme moi, comme coordinateur de ce projet-là, mais tout à la fois avec un savant dosage, que ça reste un projet quand même associatif, puisque le site est quand même promulgué par la CIM et il est hébergé par la CIM. Et donc, il y a des collègues qui ne sont pas dans le mouvement de métropolisation et qui, que ce soit la BDP, une ville comme Cestas, donc on tient à garder une ouverture sur l'intégration de n'importe n'importe quelle autre structure dans ce projet-là, qui ne soit pas métropolitain. Il y a un savant dosage à avoir, en fait, en termes de représentation de sa tutelle, et puis, plus largement, des associations qui peuvent être associées à ça, et des partenaires autres, comme, par exemple, des graphistes qui travaillent gratuitement, que chacun ait sa visibilité. Après, en termes de valorisation de la structure, pour un lancement ou pour une valorisation, bon, on peut s'attendre à tout type de réaction. À partir du moment où des personnes qui travaillent sur leur temps de travail pour leur collectivité, il est normal souvent que les DGS ou les DAC soient vigilants à ce que la collectivité apparaisse à un niveau satisfaisant dans la communication, quoi. Donc on s'attache à ce que, notamment pour le lancement du site là, plus officiel à l'automne, on ait un communiqué de presse qui soit général et adaptable à toutes les structures, pour ne pas être dans une forme de contrainte par rapport à la tutelle, quoi.
Il faut dire, vous me contredirez peut-être, mais que ce sont des projets peu onéreux. Enfin, ils sont extrêmement onéreux en termes de ressources humaines, en termes de temps passé, mais ils ne sont pas... Voilà, comme tu l'as dit, toi, c'est du libre. Je suppose qu'à Rouen, ce n'est pas...
C'est un projet BNR, oui. Donc voilà, on a eu des subventions. Par contre, effectivement, ce qui n'est pas simple, c'est la charge de travail pour les bibliothécaires. Parce que le mieux reste quand même que ce soit intégré dans la fiche de poste. Et ça, effectivement, ce n'est pas encore quelque chose qui est intégré et qui est facile à défendre.
Oui. Nous pareil, hein, tout ce qui était pneumothèque, c'était inclus dans un projet BNR. Après, pour Bémol, c'était en 2007, on a eu... un tout petit peu de frilosité des points de vue de, je crois que c'était au niveau de l'élu à la culture à l'époque, parce que le blog était considéré comme un moyen, grosso modo, de... Enfin, il y avait une perte de pouvoir sur le message communiqué, quoi. C'était ça qui faisait un petit peu peur. Mais puis finalement, tout le monde a été assez bienveillant et on a pu monter le blog sans contrainte. Après, pour tout ce qui est projet BNR, moi, je suis une toute petite fourmi en contact avec le public et ça s'est passé à des sphères qui me sont trop éloignées. Après, pour te rejoindre sur le niveau le principe de la fiche de poste, ouais, c'est vrai que c'est obligatoire parce que nos missions sont plus du tout les mêmes. Et en fin de compte, moi, je me rends compte dans mon quotidien, l'acquisition de CD, ça reste peut-être le dernier truc que je fais une fois que j'ai fait terminer tout le reste. Donc, il faut que la prise en charge du numérique soit vraiment inscrite sur les fiches de poste et pour qu'on puisse faire notre travail en toute légitimité.
Une question. Vous parlez de coûts peu onéreux. Est-ce qu'on pourrait savoir précisément combien coûtaient les projets de chacun, s'il vous plaît?
Alors pour la pneumothèque, je crois qu'on est à peu près à hauteur, donc le portail numérique, hein, on est à peu près à hauteur de autour de 200 000 euros, je crois, tout compris.
Pour la sonothèque, en fait, ça a été le financement de l'application, donc je pense qu'on aurait pu faire moins cher d'ailleurs, mais on est autour de 15 000 euros.
Zéclibon Mub, en fait, il n'y a que l'hébergement du blog, en fait, mais qui est pris en charge par la CIM. Sinon, après, c'est chaque bibliothèque, quand elle développe ses formules, voilà, qui développe ses propres projets, mais le Cyclibambib, en fait, il n'y a vraiment que le blog et l'hébergement.
0 €. C'est hébergement de la CIM. Hein. Voilà. Et après, la prise en compte que chacun, en fait, remplit une fonction documentaire sans s'en rendre compte, parce qu'on va tous à des concerts, on va tous dans des halls de cinéma où il y a des flyers qui traînent, où on se balade tous sur Internet pour faire de la veille, pour faire sa propre programmation culturelle. Que l'information est là, nous tend les mains, mais elle n'est pas organisée. Et que, faut prendre, comme disait, je suis tout à fait d'accord sur la prise en compte dans le travail, de ce que disait Sophie, une nécessaire à terme prise en compte dans la fiche de poste du travail qui est effectué, en tout cas un temps attribué à ça, puisque le travail en gros c'est pas un travail en plus, c'est un travail qu'on oublie de faire. Et qu'on fait finalement inconsciemment, c'est-à-dire de connaître la scène qui nous entoure, celle de notre territoire. Enfin, je parle pour la Gironde Music Box notamment.
Donc 0 €, donc du coup, il n'y avait pas de coût de développement informatique?
Non, parce que comme c'est un site sous WordPress, on a vraiment, c'est ça l'intérêt du libre, c'est le militantisme. Et il y a par exemple Xavier Bonin qui est graphiste, et ancien, il jouait avant de la musique, il était même hébergé sur les bornes d'Oups, a vraiment trouvé que c'était noble notre part en tant que bibliothécaire de défendre toutes les musiques. Toutes les esthétiques musicales et même les musiques, de défendre au sein d'un site libre toutes les musiques, en fait, qu'elles soient de label ou d'autoproduction, voilà. Et donc, il a travaillé gratuitement à l'élaboration, en fait, au graphisme du logo et du site. Voilà. Et donc, bien sûr, le site est déposé en créative et, comme je disais, qui veut reprendre le code, on peut le repasser. Quant au programmeur, c'est un étudiant qui a mis en place, qui a transposé le graphisme. Il y a eu 2 mois de travail de programmation, un étudiant qui est venu en stage dans la bibliothèque de Gradignan, notamment, voilà, qui était étudiant en informatique. Donc ce travail est fait et voilà.
Donc, je vais vous poser une question là à chacun. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Quel a été le frein le plus difficile à passer? Puisque si c'est pas la tutelle, si c'est pas les budgets, qu'est-ce qui pour vous a été le plus compliqué?
Je vais commencer.
Oui, vas-y, commence.
Non, le problème. On a la chance à Grenoble d'avoir un grand réseau de bibliothèques, donc on a une centaine de collègues sur le réseau. Après, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir une prise en charge collective des outils. Et c'est, bon, pour ma part, je pense que c'est ça qui a été le plus compliqué à faire. Parce qu'on a chacun des métiers différents, en fonction des structures dans lesquelles on travaille, qu'elles soient grandes, qu'elles soient bibliothèques de quartier, avec des missions différentes. Et c'est vrai que la reconnaissance de l'importance de l'outil numérique et la prise en charge collective par les collègues, pour nous, a été assez compliquée. Donc on a la chance de pouvoir se réunir en commission musique, où donc le projet a été expliqué, réexpliqué, montré, démontré, approfondi. Maintenant, au quotidien, si la sous-commission des touch, par exemple, ou le comité de rédaction de bémol n'est pas vigilant au quotidien, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à fédérer tout le monde et à arriver à mobiliser tout le monde sur ce projet-là.
Pareil que Emeline, en fait, ce qui a été compliqué, c'est de mobiliser les collègues sur le réseau. À partir du moment, mais c'est pas que pour la sonothèque, hein, c'est pour les projets qui arrivent d'autres structures. Et en fait, il faut arriver à impliquer les collègues, les former. Et ça, c'est ce qui reste le moins évident. Nous, notre gros problème aussi, c'est des problèmes techniques liés à l'informatique et puis évidemment à notre service informatique. Parce que ça veut dire qu'il faut débloquer l'accès à YouTube, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une connexion Wi-Fi permanente, sans mot de passe. Enfin voilà, des problèmes techniques vraiment très, très particuliers et communs à toutes les ressources numériques, je crois.
J'ai pas comment répondu tout à l'heure par rapport à la question de la tutelle. En fait, la tutelle était en recherche de projets autour du numérique, de toute façon. Et puis, effectivement, il y a l'intégration dans les fiches de poste de tout ce travail-là, en fait. Alors, par rapport aux contraintes, aux limites pour Zéquilibre en Bib, c'est vu que c'est un fonctionnement collectif, mais avec une participation libre, en fait. Il y a toujours une difficulté dans le temps, en fait. Il y a des collègues qui participent, mais pas forcément très régulièrement ou pas de façon continue. Donc il faut toujours gérer en fait ce fonctionnement-là sur le blog. Il y a aussi le problème de la distance géographique, c'est-à-dire que les 15 chroniqueurs ou les 30 personnes en moyenne qui participent à l'aventure en fait sont disséminées sur le territoire. Et on n'a pas vraiment de temps d'échange, enfin, on ne peut pas se réunir physiquement. En fait, on passe par le forum interne, mais il y a toujours... c'est pas forcément facile de fonctionner de façon collective comme ça, quoi. On y arrive, mais c'est peut-être là où il y aurait la principale limite, en fait, sur ce projet.
Il y en a. C'est il faut être militant, donc faut porter un temps les choses de manière, j'allais dire, à bout de bras, quoi, un peu, hein, pour montrer la pertinence d'un tel travail. Et puis, on se dit que quand on alimente un site, c'est ça le plus dur. Mais une fois qu'on l'a alimenté, je pars notamment une grosse partie du site, tout ce qui était magasin de disques, webzine, festival. Il n'y a pas des festivals. Tout n'est pas à recréer ou à faire de la veille en permanence. Donc, au bout d'un moment, on a quelque chose à montrer, quoi. Et finalement, ce quelque chose, ça représente du travail. C'est une matérialisation d'une somme de travail, quoi. Ce qui peut être difficile et qu'il faut toujours essayer de relancer, c'est le fait que, pour en faire l'expérience, quand je vais voir d'autres bibliothèques, notamment dans le cadre de la nuit bibliothèque, pour montrer qu'on peut faire ponctuellement partie de ce projet-là, c'est l'idée de se retrouver face à des collègues qui, là je rejoins encore Sophie, se posent en se disant bah, « c'est bien, ils le font, c'est super ». Moi, je me vis ma bibliothèque et j'ai aussi les CD achetés. Et puis, c'est bien s'ils le font, quoi. Se penser soi-même et pas dans un réseau. Vous voyez ce que je veux dire ? Penser transversalité, penser coopération, c'est quelque chose sur lequel c'est un des grands défis, à mon avis, de notre profession. C'est arriver à penser en réseau, quoi. Pourquoi faire chacun dans notre coin ce qu'on peut faire collectivement ? Le numérique. En tout cas, c'est le principe de cette ressource, c'est de dire ben, on ne va pas tous faire dans notre coin un site, un portail de bibliothèque, on va aller vers quelque chose, vers une communauté, une création d'un bien commun. Quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Quoi. Donc j'allais dire, c'est, les difficultés, elles sont en train de s'atténuer parce que maintenant, on commence à être sorti de la production même du site et on va vers des événements assez intéressants qui, comme on le disait tout à l'heure, reviennent vers la vie, vers l'usager, c'est-à-dire bah, proposer des animations, des concerts. On pense, par exemple, l'année prochaine, faire un tremplin musical avec une remise de prix. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour faire tourner un groupe après dans des bibliothèques du réseau. C'est un moyen aussi de revenir vers l'usager, quoi. Donc, les difficultés, ouais, elles sont quotidiennes, quoi. Mais en même temps, c'est bien d'arriver à dépasser les difficultés. Sinon, on fait rien, quoi.
Enfin, bon. Je peux rajouter un truc ?
Vas-y.
Oui, pour les difficultés, justement, aussi, ce qui peut être compliqué, eh ben, c'est d'accepter d'échouer. De se planter. Et ça, c'est pareil, c'est une remise en question des projets qu'on lance, et puis d'aller dire à la tutelle, bah, non, ça ne marche pas, en fait, il va falloir trouver autre chose. Et puis rebondir par l'échec, quand même, pour rester positif. À Rouen, par exemple, on n'avait pas les moyens d'acheter des fauteuils connectés pour tout le réseau, donc on a pallié avec des bornes. Et en fait, les bornes, ça ne marche pas, c'est un échec total. Donc là, je dois faire un bilan, justement, que je dois présenter à ma tutelle. Bon, je vais leur dire que les bornes, ce n'était pas une bonne idée.
Bien, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Moi, je voudrais poser une dernière question à nos intervenants, parce que ce qui m'a frappé quand même en vous écoutant, c'est que finalement, ce sont des projets qui permettent pour le coup beaucoup de... Comment dire ? Qui sont d'excellents supports à de la coopération. Finalement, de la coopération entre établissements différents et éventuellement même éloignés géographiquement, hein, et puis de la coopération quand même aussi au niveau local avec des acteurs qui peuvent être quand même très 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 différents, et je ne sais pas, qui se parlaient peut-être aussi avant, mais là, est-ce que j'ai le sentiment que c'est un bon support d'échange ? Pas toi, parce que tu as déjà parlé sur ce sujet, donc plutôt les autres.
Non. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est en fait de structurer un paysage local dans lequel on veut s'inclure complètement en tant qu'acteur de musique vivante, musique numérique, de musique tout court, quoi. Donc grâce à Bémol, grâce à Indetouch et à la Lumothèque, on essaye de vraiment faire le lien entre nos collections physiques, les collections numériques, les festivals locaux, la SMAC. On essaie vraiment de tisser... un tissu de coopération et de faire une espèce de maillage local autour de la musique.
Je vais copier sur ma voisine parce qu'en fait c'est exactement ça, hein, le local, le régional, le patrimoine. On essaye effectivement de combler un vide. Tout à l'heure je parlais de chaînons manquants. Peut-être que les bibliothèques peuvent se placer à cet endroit.
Je veux bien qu'on aille sur la diapositive parce que
laquelle ?
Alors c'est comment ? Voilà, parce que j'ai pas développé tout à l'heure, mais effectivement en fait Zic Libre en Bib, chaque bibliothèque peut se l'approprier à travers différents projets en fait. Donc il y avait le prêt de CDR, le prêt de clé USB. On a par exemple à Blanza, les QR codes, donc c'est des QR codes qui sont dans les bacs qui permettent de tomber sur la chronique de Zic Libre en Bib. On a les bornes d'écoute, donc essentiellement DOB en fait, où on retrouve le catalogue, les chroniques de Zic Libre en Bib et les morceaux en écoute. Sur Internet, on peut les télécharger sur la borne. Et on a d'autres bibliothèques qui sont emparées, voilà, des, de tout le contenu de Ziklibambim, notamment par les bibliobox. Hein, donc ce sont des émetteurs en fait Wi-Fi en fait avec du contenu dessus qu'on peut télécharger. Et donc voilà, donc pour montrer que enfin, différents établissements s'approprient comment le travail qui est fait et le proposent via leur solution de médiation en fait à leurs usagers. Et puis il y a une autre partie aussi. En fait, avec les animations, donc l'élection Ziklibambim dont on parlait tout à l'heure, la tournée Singer of Song dont je parlais aussi, et puis des animations plus ponctuelles. Alors par exemple, il y a les journées de création musicale à la médiathèque de Passé hein, qui réunissent des musiciens amateurs qui créent un titre sur une journée en Creative Commons. Et puis des concerts ponctuels, voilà, des animations avec des artistes libres en fait dans des médiathèques de façon ponctuelle. Donc juste pour montrer que voilà. La collaboration, elle se fait aussi avec l'appropriation de chaque structure de tout le travail et tout le contenu qu'on met à disposition.
Merci. Le rôle d'un animateur, c'est aussi de regarder l'horloge. Donc, il va être 12h30, l'heure d'aller déjeuner. Donc, on vous retrouve. Les portes sont ouvertes en bas à partir de 13h45, par là où vous êtes arrivé ce matin. La suite de la journée se passera dans les étages, dans la BPI, donc les présentations des différents prestataires. Vous retrouverez en poster session donc à la fois Giron Music Box et puis Ziklibambim. Et puis vous pourrez avoir, pour ceux qui le souhaitent, des visites de l'espace musique par Enora.